place publique.
Les primes maladie augmentent encore et toujours, notamment dans l'arc jurassien, et même si la hausse moyenne au niveau suisse semble contenue, les critiques pleuvent comme chaque année, et le porte-parole de Santé Suisse est notre invité. La maladie d'Alzheimer est-elle qu'un mythe? Alors que la France cesse de rembourser les médicaments contre cette maladie, le débat agite les scientifiques, vous l'entendrez. Pourquoi est-ce si rare de trouver de la chasse locale dans nos assiettes? Eh bien, on ne manquera pas de poser la question à un chasseur et à un hôtelier restaurateur de la région en dernière partie d'émission.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devecq.
Bonsoir à tous, on l'apprenait en début de semaine, les primes maladie augmenteront l'année prochaine en Suisse, une hausse moyenne contenue à 1,2%, mais attention, tout dépend de la catégorie d'assuré dans laquelle vous vous trouvez, et du canton aussi. Par exemple, dans le Jura et à Neuchâtel, les hausses sont plus importantes que dans la plupart des autres cantons. On en parle avec vous, Christophe Kempf, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole de Santé Suisse, principale fêtière des assureurs maladie. Merci d'être avec nous. Alors, on l'a dit, au niveau suisse, la hausse moyenne des primes semble contenue. Le signe que les coûts de la santé, au final, commencent à baisser?
Alors, j'aimerais vous dire oui, mais je n'ai pas d'indicateur qui permette de préciser que cette hausse va être durable. Donc, il faudra voir ce qui se passe en 2018 avec les coûts, voir si l'intervention du Conseil fédéral dans la structure tarifaire pour le domaine ambulatoire porte ses fruits. Et là, on pourra voir si cette hausse modérée des primes peut être pérennisée les années prochaines.
Vous en faites mention, hein, il y a une révision du tarif TARMED à la baisse dans l'ambulatoire avec à la clé 470 millions d'économies espérées. Est-ce que c'est pris en compte pour le calcul des primes?
Non, les assureurs maladie, membres de Santé Suisse n'ont pas pris ces économies attendues en compte. Pourquoi? Parce que lors de la précédente intervention du Conseil fédéral dans le TARMED en 2014, on nous avait promis 200 millions d'économies et on ne les a jamais vus. Donc on est plutôt sceptique, on refera les calculs dans le courant 2019 et évidemment si ces économies ont été réalisées, eh ben, on adaptera les primes en conséquence.
Ça veut dire qu'après ce répit relatif, hein, encore une fois, tout dépend de la région, de la catégorie d'assurés dont on parle, est-ce que ça veut dire qu'après cette hausse modérée, on peut s'attendre à un nouveau choc des primes l'année prochaine?
Alors c'est difficile à dire, justement ça dépendra des effets de l'intervention d'Alain Berset dans la structure tarifaire pour le domaine ambulatoire. Ça dépendra également de l'intervention de la Confédération dans le domaine du prix des médicaments. Ils ont repris l'adaptation du prix des médicaments fin 2017. Ça devrait aussi avoir un effet sur les coûts pour ce poste-là. Mais là, on manque encore de données pour 2018 pour pouvoir vous dire que oui, ça va se poursuivre ou non, ça ne va pas se poursuivre.
On le comprend bien, il y a de l'incertitude. Par contre, il y a des indicateurs qui montrent, par exemple, dans le Jura, le monitoring 2018, que les frais qui pèsent sur l'assurance de base ont baissé de 3 à 4% au premier semestre. Et le Jura est confronté à une hausse plus élevée que la moyenne et ne comprend pas cet écart. Pourquoi?
C'est juste, alors il faut faire très attention avec les chiffres 2018 parce que beaucoup de médecins et d'hôpitaux qui travaillent évidemment dans le domaine ambulatoire avec la structure TARMED ont retardé leur facturation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les assureurs maladie n'ont pas encore reçu toutes les factures des prestations qui ont été effectuées au premier semestre. Donc, il faut être extrêmement vigilant avec les données 2018. On ne peut pas se baser sur ces données-là pour dire dans quel sens les coûts de la santé vont évoluer pour cette année.
Même si le canton de Berne est plutôt préservé, hein, en matière de hausse, avec une hausse plus faible que la moyenne suisse, son directeur de la santé publique, Pierre-Alain Schneck, estime que la balle est dans votre camp, dans le camp des assureurs, pour faire baisser les coûts. On l'écoute.
Les caisses maladies ont engrangé des réserves bien supérieures à ce qui est demandé par la loi et nous estimons que ces réserves se devraient d'être redistribuées aux assurés. Les assureurs peuvent eux-mêmes décider de redistribuer une partie de ces réserves et je pense qu'il serait opportun que les assureurs jouent leur rôle à ce niveau-là et qu'ils prennent les mesures qui s'imposent.
Christophe Kempf, une réaction du côté de Santé Suisse par rapport à ces déclarations?
Alors c'est vrai, nous pouvons le faire. Certains assureurs, d'ailleurs, membres de Santé Suisse le font, s'ils estiment que leurs réserves sont suffisantes pour les redistribuer à leurs assureurs. Il faut faire attention dans ce domaine si chaque assureur cherche à avoir uniquement le minimum légal pour ses réserves. Le risque, c'est qu'on ait des effets yo-yo nettement supérieurs au niveau des primes à la hausse et aux hausses auxquelles on assiste actuellement.
Donc ces réserves vous permettent de lisser les hausses qui reviennent chaque année?
Les réserves sont là pour faire face si une année les coûts de la santé dépassent les primes qui ont été calculées par l'assureur maladie. Elles offrent la garantie aux fournisseurs de prestations, donc aux médecins, aux pharmaciens, aux hôpitaux qui seront payés, même si les primes ne couvrent pas les coûts de la santé. Et évidemment, l'année suivante, il faudra reconstituer ces réserves. Les réserves ne sortent pas du système, elles appartiennent au collectif d'assurés, et elles sont là justement pour servir de matelas de sécurité.
Certains dénoncent un manque de transparence, notamment à gauche, avec l'idée de la caisse cantonale qui revient chaque année également, pour que chaque canton puisse par exemple contrôler l'encaissement des primes et aussi maîtriser les remboursements, mettre aussi en œuvre des politiques de prévention. Que pensez-vous de cette idée? J'imagine que d'année en année, votre avis n'a pas changé.
Donc, le contrôle, il y a déjà aujourd'hui. Hein, le FSP exerce un contrôle poussé sur l'activité des assurances maladies. Nous devons leur fournir tous nos chiffres, y compris la façon dont on gère les réserves, comment celles-ci sont placées, à combien elles s'élèvent. Je ne suis pas sûr que les cantons avec une institution cantonale auraient beaucoup plus de contrôle à ce niveau-là.
L'Office fédéral de la santé publique, l'OFSP, dont vous venez de mentionner l'existence, donc un pouvoir de surveillance sur les assurances, il a été nettement critiqué lundi par notamment le canton du Jura. On l'accuse de mettre les cantons sur le fait accompli, de ne pas communiquer de manière transparente, de quoi lever aussi beaucoup de doutes et de suspicions.
Bon, alors peut-être que dans certains cantons, on essaie de renvoyer la balle parce qu'on n'a peut-être pas réussi au niveau politique à mettre en place des mesures pour maîtriser les coûts de la santé. Donc on cherche à renvoyer la balle à d'autres acteurs du système de santé. C'est probablement de bonne guerre. Mais si on souhaite avoir des informations sur comment sont perçues les primes, à quoi elles servent, on trouve toutes ces informations par exemple sur le site de l'OFSP.
Dernière question, Christophe Kempf. Le Parti Socialiste relance une initiative pour essayer d'améliorer, de réguler le secteur. Il aimerait plafonner à 10% du revenu déterminant imposable, 10% des ménages, le coût des primes. Est-ce que vous y croyez à cette projection, à cette idée? Elle serait, cette idée, à l'image de ce que promet en tout cas et réalise le canton de Vaud?
Alors, c'est une idée qui peut être intéressante. Il faudra voir si c'est finançable. Mais là, encore une fois, on ne s'attaque pas aux causes du problème, qui sont les coûts de la santé, le volume des prestations qui sont utilisées, est-ce qu'elles sont toujours effectuées à bon escient. On intervient en bout de chaîne et on ne va pas résoudre le problème avec ce type de mesures.
Christophe Kempf, pour les assurés qui souhaiteraient économiser un peu d'argent, votre conseil?
Alors, il faut voir si vous avez la franchise qui est adaptée au coût de la santé que vous avez chaque année. Il y a des calculateurs en ligne qui permettent de calculer la franchise optimale pour chaque assuré. Ensuite, vous pouvez aussi choisir un modèle alternatif, donc décider de passer à un modèle médecin de famille. Ça veut dire que vous devez d'abord aller voir votre médecin de famille avant de recourir par exemple à un spécialiste. Ça permet d'économiser jusqu'à 20% sur les primes. Et vous avez, si vous n'êtes pas satisfait du service de votre assurance, évidemment aussi la possibilité de changer d'assureur.
Christophe Kempf, porte-parole de Santé Suisse, merci d'avoir été avec nous dans Place Publique. On vous souhaite une bonne soirée, à bientôt.
Bonne soirée, au revoir.
Au revoir.
Place Publique. Gabriel Devecq.
Chaque année, la Journée mondiale d'Alzheimer permet de parler de la réalité de cette maladie dégénérative du cerveau. Les symptômes se traduisent notamment par une perte de la mémoire et de certaines fonctions intellectuelles. Très handicapante, bien sûr, dans la vie courante, la maladie touche principalement les personnes âgées, près de 150 000 personnes en Suisse. Mais des voix se font entendre pour dénoncer une supercherie. La maladie d'Alzheimer ne serait selon eux pas une maladie en soi, mais un mythe, notre société refusant d'admettre le vieillissement cérébral. Les traitements médicaux hors de prix ne mèneraient à rien d'autre qu'à empoisonner les patients plus rapidement et permettraient bien plus de pallier le manque de personnel en psychogériatrie. L'une des porte-voix de cette thèse, de ce courant critique, est Anne-Claude Juira van der Linden, psychologue spécialisée en neuropsychologie et enseignante à l'Université de Genève. Je vous propose de l'écouter avant de faire réagir nos invités.
En fait, moi, je pense que la maladie d'Alzheimer est une manière que la communauté scientifique a eu d'expliquer à un moment donné les difficultés cognitives pouvant apparaître dans le vieillissement, mais en commettant une erreur de taille qui est de la considérer comme une maladie avec des caractéristiques, avec des causes spécifiques. Alors que ce que montrent les études, c'est qu'il y a une multitude de processus qui sont derrière un vieillissement cérébral problématique. Processus qui sont aussi bien somatiques, physiologiques, que des processus liés au parcours de vie des gens, à des caractéristiques psychologiques des personnes, à leur parcours de vie, à leurs habitudes de vie, mais aussi à des dimensions psychosociales où on sait que pour une personne, d'avoir l'accès à l'éducation, d'avoir pu toute sa vie durant continuer de se former, d'être intégré à une communauté, d'avoir un sentiment d'utilité, d'auto-efficacité, d'estime de soi, sont aussi des facteurs qui vont concourir à la qualité du vieillissement cérébral. Et parmi les facteurs biologiques, il y a des facteurs qui sont bien reconnus maintenant comme jouant un rôle très important dans le vieillissement, à savoir en particulier les facteurs de risque cardiovasculaire, mais aussi des problèmes de vue, d'audition, d'avoir toutes sortes de maladies somatiques peuvent avoir une incidence, sans parler des médicaments, parce qu'on sait qu'on est dans des sociétés qui sont en surconsommation notamment de psychotropes, et ces médicaments sont loin d'être anodins sur les problèmes de mémoire. Je dirais aussi qu'on a l'idée que les problèmes de mémoire sont liés nécessairement à des atteintes cérébrales. Eh bien, la neuropsychologie nous montre qu'il y a 36 000 raisons d'avoir des problèmes de mémoire alors qu'on vieillit.
Du coup, qu'est-ce qu'on fait avec les patients qui sont atteints de troubles cognitifs, qui souffrent? Qu'est-ce que vous dites aux médecins qui estiment que certains traitements, comme par exemple l'Ebixa, sont, dans certains cas, efficace et soulage le patient?
Non, mais ces médicaments, globalement, ne font clairement pas leur efficacité. Après, l'effet placebo, ça existe toujours aussi. J'entends de manière globale, ces médicaments n'ont pas fait la preuve de leur efficacité. D'ailleurs, les Français, maintenant, déremboursent ces médicaments et peuvent aussi amener des effets secondaires qui peuvent être graves. Il y a des études qui montrent que la prise à long terme de ces médicaments peut être associée à la survenue d'emboles cérébraux. Donc, les gens vont faire des problèmes cardiovasculaires. Moi, je pense qu'il y a vraiment à penser les choses de manière beaucoup plus vaste, un accompagnement plus vaste. Et je pense qu'une analyse au cas par cas des situations qui amènent à des problèmes aussi d'agitation, des problèmes de comportement, il y a également des solutions qui sont non médicamenteuses. On est dans une société qui médicalise tout, mais qui fait l'économie d'une analyse beaucoup plus en profondeur des mécanismes en jeu. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut nier les aspects biologiques, bien entendu, qui sont derrière ces vieillissements problématiques. Mais c'est lié à des processus de vieillissement multifactoriels et qu'il faut aborder dans la complexité de cette multifactorialité et des interactions qu'il peut y avoir à ce niveau-là.
Anne-Claude Juira van der Linden, auteur d'un blog sur la question et d'un ouvrage aussi dédié donc au vieillissement cérébral. Pour réagir à ces propos, nous avons le plaisir de recevoir deux représentants de la sphère médicale dans la région, des spécialistes de ces questions. Doctoresse Yolanda Espolio de Baye, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes médecin-chef du département de gériatrie, réadaptation et soins palliatifs à l'hôpital Neuchâtelois. Avec nous également, Jean-Christian Musiek-Frankhauser. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes médecin-chef du secteur ambulatoire et semi-hospitalier du pôle de santé mentale de l'hôpital du Jura bernois. Soyez les bienvenus. Madame Espolio-Desbaillet, la maladie d'Alzheimer n'existerait pas en tant que telle et donc les traitements médicaux ne serviraient à rien.
Alors, cette controverse anime un petit peu les débats depuis plus de 10 ans dans le monde médical et dans le monde gériatrique en particulier. Nous connaissons le vieillissement cérébral normal auquel participent tous les facteurs qu'a cité Madame Juira, mais nous connaissons également l'atteinte et les aspects biologiques de la maladie, l'atteinte neurodégénérative qui est présente avec des dépôts de protéines anormales dans le tissu cérébral qui se soldent par la destruction de millions de neurones.
Et les traitements, comme vous l'observez sur le terrain, fonctionnent?
Alors, Les traitements sont clairement des traitements à visée palliative et non pas curative. Aujourd'hui, effectivement, nous n'avons pas de traitement pour guérir d'une maladie d'Alzheimer. Les traitements existent, ils sont là pour aider le patient et ses proches. Ces traitements doivent être donnés parce que leur fonction première est de redonner en fait au cerveau des neurotransmetteurs pour que ce dernier puisse fonctionner de la manière la meilleure possible, pour que l'influx nerveux et les informations passent le mieux possible. Ces traitements fonctionnent pas chez tout le monde. Nous n'avons pas aujourd'hui la possibilité de connaître, avant d'avoir fait l'essai du médicament, si un patient va répondre ou non. La réponse, elle est partielle et elle est sur une durée limitée, raison pour laquelle ces médicaments doivent être donnés après une évaluation multidisciplinaire standardisée et ces patients doivent être suivis de près.
Monsieur Musiek-Frankhauser, on pourrait ne pas prendre finalement la contestation très au sérieux, surtout après ce que vient de nous dire la doctoresse. Néanmoins, elle émane de scientifiques. Et puis récemment, la France décide de ne plus rembourser les médicaments anti-Alzheimer. Est-ce qu'au fond, il n'y a pas nécessité quand même de remettre un peu en question certaines choses dans notre prise en charge ?
Bien sûr, il faut constamment se remettre en question lors de la prise en charge d'un patient et de son évolution. Cependant, je dois vous dire que, après avoir entendu ma collègue, je suis tout à fait d'accord avec elle. La maladie d'Alzheimer existe bel et bien, ce n'est pas un mythe, mais elle ne touche pas peut-être les patients atteints de manière qui sont très âgés. La véritable maladie d'Alzheimer, telle qu'Alzheimer l'a décrite, est une démence précoce qui commence déjà à l'âge de 20 ans, qui reste infraclinique pendant une vingtaine, 25 années et qui peut se déclarer vers l'âge de 45 ans. À partir de ce moment-là, si on ne fait rien, si on n'entreprend rien, ce sont des personnes qui, arrivées vers 55, 60 ans, seront enfin de vie. Ce que notre société appelle aujourd'hui maladie d'Alzheimer est en fait une problématique de sénescence. C'est une maladie alzheimérisée. Cela correspond au premier diagnostic de cette affection qui avait été déterminée depuis longtemps. C'est une démence sénile. Mais aujourd'hui, toute démence sénile est appelée maladie d'Alzheimer. D'où probable confusion au niveau de l'appellation et du diagnostic. Ceci dit, si l'on tient compte de la personne de plus de 65 à 70 ans qui présente des troubles mnésiques, des troubles de l'orientation, qui présente également des difficultés d'ordre dépressif. Donc nous avons là un cortège de symptômes qui peuvent correspondre à plusieurs affections, dont une maladie alzheimérisée n'est pas exclue. Donc, à mon sens, il faut d'abord faire un étayage diagnostique très précis et cet étayage est très difficile à faire étant donné que la symptomatologie à laquelle on est confronté peut être effectivement relevante de plusieurs pathologies différentes.
Merci beaucoup pour ces précisions. L'approche médicamenteuse, Madame Espolio-Desbaillets, est-ce que c'est malgré tout une approche sur laquelle on insiste trop ? Est-ce qu'elle cache pas d'une certaine manière le refus de la société ou l'impossibilité de la société d'allouer plus d'autres moyens à la prise en charge du vieillissement cérébral?
Alors non, je ne pense pas. Il est vrai qu'au début, il y a de ça quelques années, quand ces médicaments sont arrivés sur le marché, on a énormément insisté sur l'utilisation des médicaments. À l'heure actuelle, comme le dit aussi mon collègue, ce qu'il y a de plus important, c'est effectivement de poser un diagnostic le plus précoce possible et d'accompagner, de planifier la prise en charge de ces patients.
Mais comment vous interprétez le fait que, encore une fois, la France ne rembourse plus ses médicaments?
Alors, je connais mal le système de santé français. C'est un système de santé qui ne correspond pas tout à fait au nôtre. Je ne sais pas si, comme chez nous, où il y a quand même, à l'heure actuelle, des consultations mémoire extrêmement spécialisées, hein, où nous avons des neuropsychologues comme Madame Jura, où nous avons des psychogériatres, des gériatres et d'autres professionnels autour qui posent un diagnostic de probabilité, hein, comme l'a dit mon collègue, c'est un diagnostic de probabilité et l'idée est vraiment d'accompagner ces familles, d'accompagner ces patients dans la meilleure qualité de vie possible pour ce qui reste à vivre, quoi.
Monsieur Musiek Frankhauser, vous, votre avis sur cette question, est-ce que le recours aux médicaments, peut-être un peu trop facile, d'ailleurs des médicaments extrêmement chers, est-ce que ce n'est pas une manière de pallier le manque de personnel en psychogériatrie ?
J'espère bien que non. Vous savez, en ce qui concerne la médication dans le domaine, le débat ne se pose pas si ce sont de bonnes ou de mauvaises médications, s'il faut les donner ou pas. Ce sont des médicaments qui ont été établis à la suite de recherches importantes et, à mon sens, ils ont toute leur raison d'être à partir du moment où l'indication est bien posée au bon moment dans le décours de la vie. Évidemment, si nous avons un patient qui a déjà plusieurs années d'évolution de cette problématique de démence sénile, à ce moment-là, il est clair que ces médicaments ne vont vraisemblablement pas avoir une efficacité. Par contre, si le diagnostic est posé de manière plus précoce, avec un étayage précis, ils sont un très bon complément à tout l'ensemble du programme thérapeutique multidisciplinaire qui peut être mis en place. Et à ce moment-là, bien entendu, il faut juger de leur efficacité. Et ceci peut être fait en établissant régulièrement des tests neuropsychologiques, en comparant ces tests de 3 mois en 3 mois et voir au niveau des scores ce qui se passe.
Donc il y a un suivi au cas par cas, on vous comprend bien. Yolanda Espolio de Bayet, est-ce que cette labellisation très forte autour du mot Alzheimer, de cette maladie, n'est pas malgré tout trop invasive par rapport à notre compréhension et notre manière d'accompagner le vieillissement cérébral des personnes âgées? Est-ce que ça n'a pas une influence un peu trop grande sur d'autres solutions, notamment préventives, qu'on pourrait avoir?
Alors, les solutions préventives, si on regarde au niveau de la recherche, les solutions préventives, c'est à votre âge qu'il faut les prendre, hein. C'est-à-dire qu'il faut anticiper, c'est une hygiène de vie adaptée.
Je n'ai plus 20 ans, hein, cela dit.
Justement, c'est l'hypertension à traiter dans la cinquantaine, là vous êtes un peu plus jeune. C'est traiter tous les facteurs de risque cardiovasculaire, le diabète, etc., etc. Et avec ça, on peut avoir une certaine efficacité, mais pas tout, parce qu'il y a d'autres facteurs qui sont les facteurs environnementaux sur lesquels on a peu de la main dessus, et puis les facteurs génétiques qui entrent quand même légèrement en ligne de compte.
Si on tient compte des avancées, de tout ce qu'on a pu dire sur cette maladie depuis des années, qu'est-ce qui vous semble le plus urgent à comprendre dans le grand public ou à mettre en œuvre au niveau de la société, puisque la société vieillit et puis les cas de démence sénile augmentent? Vous-même, c'est quoi vos priorités?
Mes priorités, c'est vraiment d'anticiper, que dès que les premiers signes se présentent, de venir consulter dans une consultation spécialisée pour pouvoir accompagner et prévoir un plan de traitement adapté. Et quand je dis plan de traitement, peut-être que des médicaments seront prescrits, peut-être pas, mais c'est vraiment un suivi au jour le jour sur des mois et des années pour offrir, on va dire, la meilleure qualité de vie possible.
Merci à tous les deux, Yolanda Espolio de Bayet d'être venus, ainsi que Jean-Christian Musiak Frankhauser d'être venus répondre à cette controverse au sujet de la maladie d'Alzheimer. Merci pour vos précisions, on vous souhaite une bonne soirée.
Merci à vous.
Place publique.
La saison de la chasse démarre lundi pour ce qui concerne le tir du chevreuil, 1er octobre. On dénombre quelques 900 chasseurs dans l'arc jurassien, peut-être un peu moins. Mais soyons clairs, il y aura peu de chances pour vous de tomber sur du gibier local dans les cartes des restaurants de la région, dans votre assiette donc. On va alors tenter de comprendre pourquoi avec nos deux invités. Jean-Luc Berbera, bonsoir. Jean-Luc Berbera est avec nous à RFJ.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, vous êtes président de la Fédération des chasseurs du Jura, soyez le bienvenu. Avec nous également, Martin Maioli, bonsoir.
Bonsoir.
Vous présidez la section de Châtel Jura d'Hôtellerie Suisse, vous êtes vous-même, bien sûr, hôtelier-restaurateur à Alpellac. Alors Jean-Luc Berbera, on commence avec vous. Rares sont les restaurants qui peuvent proposer de la chasse locale, qui vont le faire, pour quelles raisons?
Alors tout d'abord, il faut peut-être se rendre compte que le gibier local, il est en priorité chassé et ensuite consommé par les chasseurs qui réalisent la chasse dans ce but-là. Hein. Ça, c'est un des premiers éléments. Ensuite, c'est clair qu'il y a quelques chasseurs qui vendent éventuellement leur venaison. Ils le font au travers de leur entourage, avec des proches, et parfois avec des boucheries qu'ils connaissent et avec lesquelles ils ont des contacts étroits. Donc, à partir de là, c'est clair que de pouvoir alimenter en venaison locale l'ensemble des restaurateurs, par exemple, ça devient quelque chose d'assez difficile, voire d'impossible. Mmh. Alors, ce qu'il faut aussi peut-être ajouter, c'est que évidemment, vous allez trouver sur les tables des restaurants de la région Béjune des restaurateurs qui pourront avoir ces contacts avec les chasseurs et qui pourront obtenir évidemment de la venaison locale.
Et comment je fais d'ailleurs si je veux savoir où je peux en trouver ? Dans quel restaurant ? Est-ce qu'il existe finalement du côté des chasseurs une liste des restaurants qui proposent de tels produits ou c'est du bouche à oreille ?
Alors c'est plutôt du bouche à oreille, c'est plutôt aussi en fonction aussi de la renommée du restaurateur. C'est vraiment dans ce cadre-là que peut fonctionner la compréhension de quelle venaison on consomme à quel moment. J'aimerais juste aussi rappeler une chose, c'est que à peu près les deux tiers de la consommation de la venaison qui est consommée en Suisse provient de l'importation. Selon les chiffres que j'ai pu obtenir pour préparer l'émission, un tiers seulement était vraiment de la venaison locale qui était consommée en Suisse. Voilà.
Merci pour ces chiffres. Martin Maioli, on le voit, c'est difficile. Et on imagine que pour le consommateur, c'est un peu, et vous me l'avez dit en préparant cette émission, c'est un peu comme les filets de perche. On en parle beaucoup, on les adore, mais très peu de chances qu'ils soient locaux.
Effectivement, pour la chasse comme pour les filets de perche, la consommation de produits locaux est tout à fait dans les chiffres que disait monsieur tout à l'heure. Moi, selon les chiffres de Agriculture Suisse, on serait plutôt à 20% de production locale et 80% d'importation.
Alors vous-même, vous faites comment ? Vous avez un réseau dense et vous connaissez des chasseurs et vous arrivez à en proposer. La problématique pour vous, ça se traduit comment ?
Alors la problématique pour moi, c'est un rapport de confiance entre le restaurateur et le client. Il est bien clair que à l'hôtel Alpelac, puisque vous me posez la question pour l'hôtel Alpelac, c'était pas forcément le sujet, mais effectivement à l'hôtel Alpelac, on a nous de la production, enfin de la chasse locale qu'on utilise pour des soirées précises. Parce que effectivement, si vous avez un chevreuil ou un chamois, ça vous fait peut-être pour une quarantaine de personnes. Donc effectivement, c'est impossible de pouvoir l'étendre sur l'ensemble de la saison qui commence effectivement ces jours et qui finira, on va dire fin octobre. Donc pour nous, à l'hôtel Alpelac, c'est clair qu'on travaille à la fois avec de la chasse locale. Mais c'est bien défini. On travaille aussi avec des produits d'importation et des produits d'élevage.
Là, vous parlez aussi en tant que représentant de la section de Châtel-Jura, donc pour l'ensemble des hôteliers restaurateurs, la pratique, c'est plutôt de vendre, on l'a dit, de proposer de la viande importée pour 80% des cas. Est-ce qu'il y a moyen de faire mieux ?
Je dis 80% des cas, ça peut être de l'élevage local aussi.
Hein, alors on en parlera. Est-ce qu'il y a des alternatives justement ? Qu'est-ce qui est le préférable ? C'est d'importer de la chasse d'Autriche par exemple, ou bien de privilégier ? Il y a des élevages locaux, des élevages, pas de la chasse. Ouais. Est-ce que ça c'est une bonne solution ?
Alors là c'est la même chose, l'élevage local il est aussi infime par rapport à la consommation globale de chasse. Et effectivement, la première chose c'est de pouvoir privilégier ces élevages-là, mais même avec ça, on est loin du compte par rapport à la demande. Hein. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est si on est clair avec sa clientèle, si on annonce finalement ce qu'il y a dans l'assiette, la clientèle accepte ou n'accepte pas, c'est clair. Hein. C'est comme quand on va manger des filets de perche, on choisit là où on veut aller, et même sur place, des fois il peut y avoir local ou des fois non local.
Jean-Luc Berbera, à l'heure où la cause animale hein, fait toujours plus parler d'elle, est-ce que vous ne regrettez pas finalement que le produit de votre activité, de votre discipline, de votre passion soit si peu accessible pour le grand public, à moins d'être initié, évidemment.
Voilà, évidemment, mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que le chasseur il est contraint à suivre des plans de chasse stricts qui sont imposés par les cantons en fonction aussi du nombre de la population d'une espèce donnée. Et ces plans de chasse sont relativement strict et nécessite vraiment une manière de procéder précise. Pour les chasseurs jurassiens, pour prendre un exemple, il se prélèvera à peu près 1200 chevreuils durant cette saison, octobre-novembre. Ça veut dire grosso modo 3 chevreuils par chasseur. Et ça implique évidemment que cette venaison est déjà prisée par le chasseur, parce que quelque part, la raison fondamentale de réaliser l'acte de chasse et d'effectuer les prélèvements, eh ben, est autour de la possibilité de consommer cette viande. Et c'est une viande qui a toutes les caractéristiques d'une viande bio. Elle est locale, elle a aussi les critères de ne pas être engraissée, ou en tout cas produit avec différents éléments qu'on peut retrouver des fois dans son assiette. Je pense en particulier à des antibiotiques ou alors à différents éléments comme ça. Donc on a vraiment une denrée qui est précieuse de ce point de vue-là, d'un point de vue alimentaire, etc. Donc à partir de là, ben, les chasseurs, ils ont bien compris aussi l'intérêt qu'il y avait à pouvoir consommer cette viande pour eux-mêmes et pour leur famille.
Donc on l'a bien compris, le message est clair, hein. Si vous voulez manger de la chasse locale, soyez chasseur. Martin Maioli, quand même, un mot sur le prix. On le sent bien, c'est de la qualité, c'est rare, donc du coup, ça coûte cher. Si un consommateur va dans un restaurant dans la région, il faut s'attendre à devoir payer cher pour manger de la chasse locale. Il y a aussi ça, problématique du prix.
Alors c'est clair que le prix est important aussi dans la réalisation d'une assiette, mais je crois que la chasse locale est si rare qu'elle se justifie malheureusement par un prix élevé.
Qu'est-ce que vous appelez un prix élevé, par exemple, dans des restaurants, vraiment au niveau moyen? Il faut s'attendre à quel coup de fusil?
Non, c'est-à-dire que une viande d'élevage par rapport à une viande chassée, alors ça va dépendre aussi des chasseurs, s'il y a des chasseurs, parce que le chasseur vend sa viande, mais après il faut la bouchoyer, ce qui coûte aussi un prix. Et effectivement, on arrive à des coûts qui coûtent enfin facilement le double. Une selle de chevreuil chassée ou bien une viande de cerf, facilement le double à l'achat que d'élevage.
Et Jean-Luc Barbera, ça, l'attrait du prix, de pouvoir vendre cher sa viande à des établissements qui en sont friands, c'est une motivation moins grande que le plaisir de manger ce qu'on a chassé?
Non, je ne dis pas que ça n'existe pas chez les chasseurs de vendre sa venaison. Bon nombre, je pense, de mes collègues le font. Personnellement, moi, je le fais pas. Je ne vends pas cette viande parce que c'est une des raisons pour lesquelles je chasse, hein. Donc, d'être du début à la fin de la chaîne. Et je trouve important de pouvoir asseoir un peu cette passion de la chasse autour de ce critère-là, de ces valeurs. Et donc, voilà, le prix, évidemment, il est ce qu'il est, mais je pense qu'il est en lien très spécifiquement avec la qualité de cette viande, je l'ai dit. Et je voudrais juste rajouter peut-être un élément, c'est que le chasseur, de par sa formation, est obligé, il est contraint par la loi notamment, de pouvoir évaluer le gibier qu'il va prélever et évaluer la viande, la qualité de la viande. Donc, la formation qu'on donne aux candidats chasseurs et aux chasseurs tourne autour d'une dizaine de critères qui nous permettent d'évaluer si la bête est en santé, si elle n'a pas d'anomalie, si elle n'a pas de maladie particulière. Et ça, c'est un élément fondamental, parce que si cette carcasse de gibier est malade, évidemment, elle ne sera ni consommée par le chasseur et ni vendue, et évidemment.
De quoi rassurer, évidemment, la population, on sent bien, si on en trouve sur le marché ou dans des restaurants, c'est qu'elle est de qualité, les contrôles sont là. Merci Jean-Luc Barbera d'être venu dans Place Publique. On le rappelle, vous présidez la Fédération des chasseurs du Jura. Martin Maioli également était avec nous. Vous êtes président de la section de Châtel-Jura d'Hôtellerie Suisse. Merci à tous les deux. Bonne soirée et surtout bon appétit par avance.
Bonne soirée, merci.
Merci, bonne soirée à tous.
Merci. Et c'est tout pour Place Publique. Vous pourrez retrouver cette émission en ligne tout prochainement et à la semaine prochaine, bien évidemment. Bonne soirée.
Place Publique.